RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC tous les mardis en podcast sur rmc.fr. La Dream Team est là. Stephen Brun, Arnaud Valadon et Fred Weiss. Bonjour messieurs.
Salut mon petit Pierre.
Salut Pierre, salut
vous
à
avez
tous.
Pas l'air plus excité que cela par le champion NBA. Là, vous êtes tout calme, tout tranquille. Normalement, c'est final NBA, on se lève la nuit, on est fatigué.
Alors, je crois que Fred n'a pas excité. Beaucoup dormi. Moi, j'ai regardé le match, donc je suis un peu fatigué. Mais écoute, on va être. T'inquiète, quand on va parler du match, on va être excité, mon grand.
C'était pas les plus grandes finales NBA de l'histoire non plus. C'est un beau champion.
C'est le suspense qui n'était pas grand quelque part.
C'est ça le problème. Il faut toujours une opposition, sinon ça marche pas.
Ça reste un beau champion.
Un déséquilibre.
Ça reste un beau champion.
Ça reste un beau champion.
Pour le Capital Sommeil, 4-1, c'est bien, Pierrot.
Je le dis. Non, mais avec l'adrénaline d'un septième match, tu serais bien réveillé là, je te dis.
Oui.
Alors, c'est un spécial Denver. C'est le premier titre des Denver Nuggets. Où placer Denver et Jokic dans l'histoire? On va commencer par là, et puis ensuite, vous me ferez votre bilan des playoffs, votre déception et votre plus bel enchantement. Voilà.
L'enchantement, ça me plaît.
Ça te plaît?
Oui.
On se croirait un peu dans Harry Potter. L'appellation, hein, tu as bien dit l'appellation. Jokic peut-il prétendre au titre de meilleur joueur européen de l'histoire? C'est la partie historique de ce podcast, ça va aller vite. Hein, parce que des meilleurs européens de l'histoire, ça joue entre deux ou trois noms, donc ça va aller vite, mais c'est très intéressant. Quatre. T'en rajoutes un quatrième.
Ouais, Giannis, Jokic, Gasol, Tipeee, ça fait quatre noms.
T'as oublié Dirk ?
T'as oublié Dirk. Ça fait 5.
Ouais. T'as oublié Dirk ?
J'ai oublié Dirk.
Qu'est-ce qui se passe ? J'ai vraiment pas oublié toi.
C'est automatique. Ça fait 5, Pierrot.
Non, parce que moi, j'avais pas mis Giannis, mais c'est une erreur.
C'est une erreur.
C'est une énorme erreur. Et puis le quiz, ce sera un quiz spécial Denver Nuggets. Donc ce sera la troisième fois qu'on fait ce quiz. Hein.
Encore.
Évidemment.
Même question.
Évidemment. Il y a des nouveautés. J'ai essayé de
varier.
Il y a pas de boucle. Il y a pas de boucle là. C'est bravo Denver. Donc c'est hommage à Denver. Allez, c'est parti pour Basket Time. Tous les mardis en podcast sur rmc.fr.
Rebound, Brown, banks it home. Bruce Brown puts the Nuggets back up by one. Finds Struce back to Larry. There it is, three pointer. Won't go. It's over! At last, the long wait is over. After 47 years, the Denver Nuggets can finally call themselves NBA champions.
Alors, donc, c'est le premier titre de l'histoire de Denver et de Nikola Jokic, évidemment. Quelle place pour Denver et pour Jokic dans l'histoire de la NBA? Cette finale, on a l'impression que le résultat était inexorable. Il y a eu ce deuxième match remporté par Miami, mais finalement, il n'y avait pas trop de suspense. C'était Denver la plus forte équipe, sans problème.
Oui, mais après, on l'avait dit aussi, c'était difficile de pronostiquer le Heat. Parce que le 8 avait été capable de faire des performances extraordinaires. Et c'est vrai qu'en play-off, en général, ils sont très forts. Mais ils arrivent souvent, enfin, les deux fois où ils sont en finale dernièrement, ils arrivent sur la jante complètement. Donc,
mais du coup, est-ce que ça rend pas difficile un peu l'évaluation de la performance de Denver, qui est quand même une équipe très très dominante dans toutes les séries de play-off hein, cette saison? Ils ont quand même pas trop souffert.
4 défaites, 16 victoires en play-off. Une défaite à domicile, oui, j'ai envie de dire qu'il y a une certaine logique en fait, avoir Denver champion NBA, une équipe qui a dominé la conférence Ouest, une équipe qui joue ensemble depuis pas mal d'années maintenant, qui est coachée par Mike Malone depuis 2015. Donc c'est une certaine logique. Après Miami, rappelez-vous quand on a fait un peu la preview de cette finale-là, il n'y avait pas grand monde autour de la table pour dire que Miami pouvait espérer être champion NBA.
Je crois que le mieux qu'on avait pronostiqué c'était 4-1.
Ouais, donc, j'avais dit 4-0, ça fait 4-1, mais c'est logique parce que Denver est une meilleure équipe avec des meilleurs joueurs plus frais aussi, avec une profondeur de banc supérieure, donc écoute la logique implacable. Maintenant il ne faut pas oublier ce qu'a fait Miami, certes ils se sont effondrés en finale, mais Fred l'a dit, je pense qu'il leur manque un gros joueur supplémentaire.
Ouais,
il leur manque un gros joueur supplémentaire
parce que Jimmy Butler il a cramé complètement et c'est pas possible sans lui, ça manque évidemment.
Exactement, même si Bam Adebayo a été héroïque, mais trop seul pour Nikola Jokic. Bam Adebayo, il fait des finales fantastiques. Avant l'émission, tu me rappelais les chiffres, c'est quoi, 22 et 14 de moyenne.
De moyenne.
Mais il est trop seul parce qu'il doit se taper Jokic en défense et qu'en attaque, il est tout seul pour aller à la bataille au rebond et tout ça. Mais Miami est sur le match de cette nuit, qui est le match 5. Miami fait un bon match. Je sais pas s'ils peuvent mieux jouer au basket défensivement. Miami sur le match 5, ils sont très bons. Ils sont à plus 7
c'est
à la mi-temps.
Ils mettent pas un panier, c'est parce qu'ils sont cramés tout simplement. Quand t'es fatigué, t'as pas les mêmes appuis, tu shootes un peu plus vite, t'es pas dans le bon timing, et voilà pourquoi tu rates des shoots aussi.
La meilleure équipe à gagner, Pierron.
Je pense que c'est, ça serait dur de vraiment d'évaluer ce titre des Nuggets quand tu vois ce que le Heat a dû faire pour en arriver là. Taper les Bucks, certes, on va dire, Giannis n'était pas à 100%, mais il tape quand même les Bucks qui étaient favoris.
Pas à 100%, il a pas joué deux matchs. Hein.
Voilà, c'est pour ça que je te dis ça. Mais taper les Knicks, qui étaient chauds avec Brunson et tout, taper les Celtics, qui étaient annoncés favoris, et il a fallu avoir une équipe avec un cadre de jeu solide, une académie de jeu, des systèmes, un coach, bref, une équipe vraiment structurée pour les battre. Parce que c'est vrai que les Bucks sans Giannis, ils étaient un petit peu perdus, un Jrue Holiday, un collectif qui ne s'était pas bien exprimé, les Knicks, ça se reposait peut-être un peu trop sur Brunson, les Celtics, ça ne jouait pas au ballon. Bah, il a fallu qu'une équipe joue parfaitement au ballon pour taper ce hit.
Et ça fait plaisir de voir que... une équipe est championne NBA sur la construction depuis pas mal d'années.
Bien sûr.
Et ça me fait plaisir de voir que des équipes comme Phoenix, on en reparlera plus tard, ou les Lakers qui ont tout changé sur l'espace de 3-4 mois en espérant faire un one-shot, ça ne fonctionne pas. Et ça me fait plaisir, et peut-être que ça donnera des idées à des équipes justement de prendre leur temps, avec des garçons comme Jokic ou comme Jamal Murray, de prendre leur temps, de construire une équipe autour pour aller au bout.
Stephen, ça c'est un vœu pieux. Hein. Oui, comment ça va se passer dès qu'il y aura un gros pré-agent qui sera sur le marché, ils vont dire « Ah, c'était bien l'idée de construire, mais finalement, on va prendre le gros frère. »
Ou de ne pas virer ton coach aussi. Parce que là, 2015, Mike Malone, ouais, c'est ça. Hein.
Le coach, bien
et si ça peut donner des idées au Paris Saint-Germain, Pierrot, c'est sympa aussi.
Le tranquille. Après, si on parle de place dans l'histoire, cette équipe n'a pas encore marqué l'histoire. C'est un peu tôt, non? Il va falloir autre chose, un deuxième titre au moins, non?
Oui, c'est tôt. C'est tôt, comme les Bucks n'ont pas marqué l'histoire aussi après le premier titre. Il faut une mini-dynastie, ce qu'ont fait les Warriors, ce qu'ont fait les Cavs à un moment donné, même s'ils ont peu gagné. Ils sont quand même allés énormément de fois en finale. Ce qu'ont fait Miami à une époque.
Quand tu dis mini-dynastie, quand tu parles des Warriors, c'est quand même une vraie dynastie.
Oui, mais il n'y a pas eu de split, pas mal d'années. Mais il faut que Denver persévère et continue à être chaque saison au moins finaliste NBA pour justement s'inscrire dans la durée et que ce ne soit pas un one-shot.
Ou confirmer un peu dans le temps, tu vois le Heat se retrouver presque 10 ans après l'époque LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, refaire une deuxième finale, tu vois, c'est important la constance, donc d'être encore là à ce niveau-là.
C'est en finale dans la bulle aussi.
En finale dans la bulle contre les Lakers. C'est ce que vient de dire Stephen, ça manque aux Bucks, ça manque aussi aux Raptors. Il y a le côté un peu one shot, et si on veut voilà, que ces Nuggets.
Est-ce que les Raptors, tiens, c'est une bonne comparaison, n'ont pas un peu plus marqué les esprits sur leur seul titre que cette équipe de Denver? Parce qu'il y a eu des matchs fabuleux, des scénarios.
Il y a eu Kawhi qui
marchait sur la ligue.
Ouais, mais c'est tout ce qui entourait ces finales, c'est-à-dire que ça a été en 7 matchs, il y a eu
une ferveur aussi populaire inégalée.
Le Nord, etc. Mais concrètement, non.
Non, tu dis non.
Pour moi, non, c'est un titre, c'est un titre. Même après, si, encore une fois, l'histoire est
un peu différente. Après, la façon dont on écrit les choses est différente.
Le titre des Raptors est un peu spécifique parce que c'est une équipe non américaine. Donc ça avait aussi marqué l'histoire de la NBA qu'une équipe qui ne soit pas sur le continent américain soit championne NBA.
Mais c'est vrai aux États-Unis.
Pas le continent, dans le pays américain. Mais c'est vrai que ce titre de Denver, il est particulier aussi parce que Nikola Jokic fait que ce titre est particulier, parce que c'est peut-être la première fois qu'on a affaire à un garçon comme ça qui n'est pas dans les standards NBA, qui n'est pas un monstre athlétique et qui a marché sur la ligue par son cerveau. Et c'est rare aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la NBA, quand on parle de cette ligue NBA, c'est des athlètes qui mettent la tête au cercle.
Tu dirais que c'est rare ou c'est juste impossible normalement?
En tout cas, il a quelque chose d'unique. Il est meilleur marqueur, meilleur passeur et meilleur rebondeur de la finale, ce que jamais personne n'a fait avant lui. Ce qui est quand même très significatif aussi, très parlant de ce qu'est le jeu de Nikola Jokic.
Mais quand c'est un garçon qui a fait qui a le record de triple-double sur les campagnes de play-off, je sais pas, il détruit des équipes à lui tout seul. C'est rare en fait de voir un garçon capable
parce
de détruire.
Qu'il a la capacité de marquer des points, mais aussi de passer, donc de faire jouer son équipe. Et en plus, il prend les rebonds quand il y a besoin.
Et c'est ce qui est fort chez Jokic, c'est que c'est l'arme numéro une de Denver, mais lui a cette mentalité de se dire, et ça depuis son enfance, de se dire si je peux pas scorer, ça veut dire qu'il y a un pote à moi qui est tout seul et il faut que je le fasse scorer. Tu vois, il y a pas mal de mecs qui ont été go-to guy des équipes qui, pour eux, l'essentiel d'un match, c'était mettre des points, impacté par les points. Jokic, il t'impacte par autre chose, c'est-à-dire qu'il lit ce que la défense lui propose. Si la défense lui propose un bugna-bugne face à Bam Adebayo où il peut scorer 40, il va mettre 40, il l'a fait d'ailleurs dans ses finales. Quand on vient doubler ou tripler sur lui et qu'il y a un autre mec qui est capable de mettre 30 ou 35, eh ben il va servir les autres.
C'est pas ça, c'est la fort. Mentalité un peu plus européenne, ça aussi quelque part aussi, dans le jeu. jeu, dans la construction du joueur. C'est vrai qu'on on dit, voilà, quand tu ne peux pas jouer, quand tu as une prise à deux, tout de suite, tu cherches le partenaire.
Est-ce qu'il a déjà marqué l'histoire de la NBA, selon vous ?
Nikola Jokic, oui.
Oui.
Il sera Hall of Fame déjà,
oui.
À coup sûr.
Ah bah oui. Ah,
Pierrot, quand tu es deux fois MVP et que tu es champion NBA, MVP des finales, je pense que.
C'est pas mal. C'est,
je pense qu'il va y être, il va y être haut la main. Et si on parle de dynastie, il y a quand même des signaux positifs dans cette équipe de Denver.
Ils sont jeunes, hein.
Puisque ils sont jeunes. L'ossature, la grosse ossature, le 5, le 6 majeur, est sous contrat jusqu'en 2026 minimum. Donc ils ont encore quelques années à faire ensemble. Ils ont Christian Brown, là, qui a fait un match des finales fantastique d'ailleurs, quand il met 15 points sortis
dedans. Pour un rookie, il donne des bons services.
Qui est sous contrat rookie, donc je ne vois pas pourquoi l'histoire des Nuggets s'arrêterait là.
En fait, moi, je vois pourquoi. Parce que concrètement, on ne sait pas comment peuvent se construire les autres équipes. Ouais. Moi, je ne parle pas de la qualité et l'efficacité de cette équipe, et elle l'a montré toute la saison, et aussi sur les phases finales. Mais après, tu sais comment ça se passe, la NBA.
Est-ce qu'ils ont un tout petit peu de chance, quand même, de tomber sur Miami en finale ? Est-ce que...
Ah oui, mais ça, tu ne choisis pas, Pierrot.
Oui, non, mais... Là, on parle. Non, mais ça remet pas en cause leur titre ni leur mérite, mais on parle de laisser une trace dans l'histoire.
Est-ce que tu penses que c'est l'effondrement des autres qui a permis que eux soient plus faciles ?
J'ai l'impression que tout s'était déjà joué avant à l'Est, quoi. Que la finale, ça n'a été qu'une formalité quand ils ont peut-être eu des tours un peu plus durs à l'Ouest, c'est tout. Hein. Et pour marquer un peu les esprits, il faut quand même une opposition supérieure, il me semble. Hein.
Ah bah oui,
entre guillemets, c'est pas de leur faute, mais c'était un peu trop facile cette finale.
Mais leur play-off.
Pour marquer l'histoire, je parle.
Mais leur play-off, ils ont marché sur l'Ouest, Pierrot. 4-1, 4-2, 4-1, 4-1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une équipe, même à l'Ouest, ouais, qui a été en mesure de s'opposer. Phoenix fait 4-2, mais il perd Chris Paul. Et, enfin, j'en parlerai plus tard. Mais il n'y a pas une équipe qui a mis en difficulté cette équipe des Nuggets. Alors. Ils ont quand même un temps d'avance par rapport à toutes les autres équipes sur la saison prochaine, parce que les Warriors.
Est-ce bon, que c'est pas une peut-être pas Milwaukee, parce que Milwaukee,
oui, mais c'est
une équipe qui tourne.
C'est à l'Est, donc au final, ça sera. Mais sur la conférence Ouest, les Warriors qui sont pas en fin de cycle, un petit peu, on va voir ce que ça va donner. Phoenix, on sait pas ce que ça va donner. Memphis, on sait pas ce que ça va donner si Ja Morant va rejouer au basket et va rester à Memphis, parce qu'on n'en a pas reparlé, mais il y a eu une deuxième histoire de pistolet pour Ja Morant et on attend la sanction.
Mais apparemment, au moins de son club, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y aurait moitié de la saison off.
C'est officiel, bah, ça, je sais
pas. Non, pas Adam Silver va se annoncer après les finales.
Ouais, mais ça a l'air bien engagé pour ça.
Est-ce que Sacramento va continuer à performer et terminer en haut de la conférence Ouest ? Il y a beaucoup d'interrogations. Est-ce que les Clippers, est-ce que Kawhi Leonard va rejouer au basket un jour ? J'ai envie de dire qu'à l'Ouest, c'est l'équipe qui a le plus de certitudes sur la saison prochaine. Denver, ils partent avec beaucoup d'avance.
Après, Pierrot, ça a toujours été l'éternel débat de savoir est-ce que c'est équilibré à un moment, conférence Est, conférence Ouest. C'est vrai qu'il y a souvent eu des équilibres plutôt en faveur de l'Ouest. Le tripit des Lakers 2000-2001-2002, il y a les Sixers d'Iverson, il y a les Nets, et il doit y avoir Indiana aussi. Et c'était déséquilibré total, et pourtant on ne remet pas en cause ce qu'a fait les Lakers avec Kobe et Shaq à ce moment-là. Hein.
Non, mais on ne remet rien en cause. Je parle juste de marquer l'histoire. Tu parles d'un tripit, tu marques l'histoire forcément.
Mais ils l'ont
évidemment
fait pour des équipes au final, un peu déséquilibré.
Je crois qu'avec un back-to-back, tu peux marquer les esprits déjà.
Oui. Oui.
C'était donc un basket time spécial Denver Nuggets. Champion NBA pour la première fois. On est avec Fred Weiss, Stephen Brun et Arnaud Valadon. Et on va faire le bilan de cette année de play-off. Trying to get going, drives inside, beautiful move from Murray. Butler, nice move there. Butler, jumper's good. The Heat are going to the NBA Finals. It's an iron and Murray throws it down. Bismack Biyombo Summit Center. We'll also see Kevin Durant at the five some today. Nice move. Alors, vous allez me donner votre déception et votre plus bel enchantement de cette saison de play-off NBA, bien sûr. On parle que des play-offs, la saison régulière, ça a duré suffisamment longtemps. Fred, c'est toi qui démarre.
Mais déception d'abord.
Déception, vas-y.
Déception d'abord, bah, j'ai choisi les Bucks.
Les Bucks.
J'ai choisi les Bucks.
Étaient favoris, hein. N'oubliez pas.
Parce que quand on m'avait demandé, moi je les voyais tout à fait gagner ce championnat. Alors oui, il y a des circonstances atténuantes, hein, Stephen l'a dit tout à l'heure. On a Yanis qui n'a pas pu commencer, enfin qui n'a pas été dans le coup sur les 2-3 premiers matchs, parce que sur le premier il se blesse et ensuite il met 2 matchs pour pouvoir revenir, donc c'est très compliqué évidemment, il y a des circonstances atténuantes, mais j'avais l'impression que cette équipe des Bucks était capable de s'imposer contre Miami malgré l'absence de Yanis, ce collectif justement, ce travail qu'il y avait autour, et pour moi c'est une vraie déception parce que voilà, c'est une équipe que j'aime beaucoup et ça m'a un petit peu choqué.
C'est une équipe que t'aimes beaucoup.
Oui, et ça m'a un peu choqué le fait qu'ils baissent un peu les bras, que voilà, quand Yanis n'est pas là.
Hein, c'est pas un échec. Hein.
Oui, d'après certains, c'est pas un échec. Et cette sortie aussi, pour moi, elle est catastrophique aussi. Mais,
la sortie de Yanis.
La sortie de Yanis. Donc voilà, moi, pour moi, ce serait vraiment les Bucks en, en réception.
Et quel est le plus bel enchantement de cette saison de playoff?
L'enchantement, eh ben moi, tu vois, je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est la finale Denver-Miami. Mm-hmm. Alors, je suis pas Adam Silver. Hein. Lui, je pense que lui, c'était pas un enchantement du tout d'avoir cette finale-là.
Il aurait préféré Boston Lakers.
Mais il aurait bien sûr préféré Boston Lakers, mais je me dis que ces deux équipes qui sont construites dans le temps, qui travaillent dur, qui ont fait que leur coach reste, que tout le monde progresse, qu'on travaille bien. On parle souvent de la NBA comme une ligue où ça ne coache pas très bien, où ça laisse beaucoup d'espace aux joueurs. Ben là, il y a deux vrais coachs en finale. Ce n'est pas le plus sexy, évidemment, mais on a eu quand même une finale comme moi j'aime. Mm-hmm. Ça joue au basket, vraiment.
Donc ça joue au basket, parfait. Et donc, le meilleur est champion, c'est Denver. Exactement. Arnaud, ta plus grosse déception, ton plus bel enchantement de cette saison de playoff?
La déception, c'est Boston. Les Celtics, en plus, c'est une franchise évidemment que j'aime bien. Donc, ça m'a vraiment touché de les voir régresser, parce que c'est une régression. L'année dernière, ils font finale. Cette année, ils se font sortir en 7 par Miami, parce qu'on a... Moi, j'ai pas vu de progression, bien au contraire. Si bien régression, parce qu'ils passent de finale NBA à finale de conf. Et même dans le jeu, je me dis... Alors, on parlait un petit peu de l'éloge de la patience.
Matsula aussi.
Mais qui était assistant d'Ime Udoka. Déjà, voilà ce qui s'est passé avec Udoka totalement écarté pour des faits qui lui sont reprochés.
Soupape on the side.
Oui, c'est ça.
Voilà. Déjà ça, on s'est dit, bon, c'est un peu bizarre. On a géré en interne, on promeut son assistant. Et on sent clairement que là, il y a quelque chose qui ne va pas. On a vu au niveau du coaching, Matsula qui s'excuse de ne pas avoir pris temps mort. Alors, on peut lui laisser voilà, la jeunesse, un coach qui apprend. Mais voilà, cette équipe de Boston, elle est vraiment dans sa fenêtre de tir avec ses deux stars Tatum et Brand. C'est maintenant, ça commence un petit peu à défiler les années. Alors, ils ne sont pas tout vieux. Hein, Jalen Brown et Jason Tatum, mais aussi on se demande est-ce que cet attelage.
Mais on parle déjà d'un départ de Jalen Brown, j'ai vu. Hein,
bah, ça fait tous les étés on en parle.
Qui fait débat, bien sûr, c'est l'association qui fait débat. Bien sûr, on ne sait pas si les deux vont rester ensemble.
On a quand même, c'est les débats récurrents qu'on a. On a le sentiment qu'ils se marchent dessus. Hein. Tout le temps.
Après, moi je trouve toujours délicat de remettre en cause un duo, certes qui n'a pas gagné, mais qui fait finale NBA et finale de conférence. Ça veut dire qu'ils sont vraiment pas loin de gagner. Ça veut dire que si tu fais tout péter, tu repars à zéro en fait. Enfin, c'est compliqué. C'est
mais
pas
c'est
comme
comment ça se passe la NBA. Hein.
Ouais,
ils sont pas
mais c'est
éventuellement
la contrepartie que tu peux avoir, effectivement. Si tu fais péter, il faut que tu récupères derrière.
Donc, ça, c'est ta déception, c'est Boston. Quel est ton plus bel enchantement?
Jamal Murray qui revient de nulle part. Il y a deux ans, il se fait un ligament croisé.
C'était,
il manque.
C'était Jamal au genou.
Ouais. 2000, il manque la fin des playoffs 2021, saison blanche 2022. Il y a un an et demi, il marchait pas parce que voilà, il revenait, il avait pas encore fait sa rééducation et tout. De le voir, le vrai lieutenant de Jokic, parce que certes on parle de Nikola Jokic, mais faut toujours des gros lieutenants. Dans l'histoire, les grands joueurs ont toujours des très bons joueurs autour d'eux. On ne va pas vous faire un dessin, Michael Jordan, Kobe Bryant aussi. Bah là, Jamal Murray, termine les playoffs, 27 points, 6 rebonds, 7 passes décisives. Il fait des finales en 20 points et 10 passes décisives. Il n'y en a que 3 qu'on fait autant. Vous les avez? C'est facile. Hein. Magic Johnson, Michael Jordan et LeBron James. C'est les 3 avoir fait des finales dans ces standards-là. Ça vous met un peu aussi la performance qu'a fait Jamal Murray sur ses playoffs. Et puis voilà, c'est le mot qui est, tu sais, à la vogue ces dernières années, mais la résilience, il est revenu de loin. Il a fait part de ses doutes. Il dit qu'il a été aidé par les messages de Klay Thompson, notamment de Victor Oladipo, qui est aussi un joueur qui a connu énormément de blessures. Et de le voir, toute son émotion, de se dire « je reviens de presque l'enfer ». Voilà. Ligament croisé pour un joueur, on sait que des fois certains s'en sont parmi. Derrick Rose, on peut y penser. Et de voir Jamal Murray revenir au top et d'aider Jokic et de porter ses Denver Nuggets au premier titre de la franchise, c'est vraiment l'enchantement. Ça correspond vraiment à ce que je ressens pour lui.
Et il avait annoncé en début de saison, il a dit les gens ont oublié à quel point je suis fort. Bon, ce qui est une déclaration très.
Mais c'est dur de le prouver, hein.
Il avait totalement raison.
Non, mais il avait raison pour deux choses, j'ai envie de dire. Parce qu'effectivement, il était très fort, mais on l'avait un peu oublié parce que ça va tellement vite en NBA que 2 ans quasiment sans jouer.
Et finalement, c'est lui l'élément décisif de cette saison. C'est pas le meilleur joueur, bien sûr, de Denver, mais c'est l'élément qui a fait basculer la saison du côté de Denver. C'est clairement.
Un lieutenant. De grande classe, bien sûr.
Mais je ne sais pas si vous aviez vu ces propos à un moment donné sur la débrief des finales NBA. Steve Kerr avait fait dans le podcast de Draymond Green en disant que pour battre Denver, il fallait tuer Jamal Murray et que c'était lui la tête du serpent et que c'était pas Nikola Jokic, parce que Nikola Jokic, lui, c'est le venin en fait. Le venin, tu peux pas l'annihiler en fait. Mais la tête du serpent, c'est Jamal Murray. Si vous tuez Jamal Murray, vous avez des chances de battre Denver.
Et personne n'a réussi à le faire.
Non.
Donc c'est l'enchantement de Arnaud Valadon.
Et à voir si Jamal Murray va enchaîner avec la Coupe du Monde avec le Canada.
Tout à fait. On va voir.
On verra. Quelle équipe du
Stephen,
Canada.
Quelle est ta déception de la saison?
Jamal Murray, pardon, qui sera à Paris avec un tournoi 3-3 dans le 20e arrondissement d'ici une dizaine de jours.
On ira le voir.
Tu vas y aller?
Ah bah oui, ça coûte.
Hi Jamal, I'm Pierre Dorian from Basket Time.
Nice to meet you.
Famous podcast. Bien sûr. Bah, tu vas nous le ramener dans Basket Time, tiens, puisque tu as ouvert ta grande bouche.
Mais tu vas le voir, tu are the head of the snake. Et c'est bon.
Voilà, exactement. Ouais, voilà. Steve, quelle est ta déception de la saison?
Déception, j'hésite entre Kawhi Leonard et les Clippers, et finalement, j'ai pris les Suns. J'ai pris les Suns, éliminés en demi-finale 4-2 par Denver, parce que les Suns ont tenté un coup de poker, se sont jetés, alors qu'ils ne l'auraient pas fait sur Kevin Durant à mi-saison, mais ils ont affaibli cette équipe en envoyant Michael Bridges et Cam Johnson à Brooklyn. Ils ont récupéré KD et ils n'ont jamais pu jouer ensemble, en fait, parce que KD a joué que 8 matchs de saison régulière. Alors 7, certes, ça fait 8 victoires, mais trop peu pour créer quelque chose, une alchimie, une osmose. Devin Booker et Kevin Durant ont été fantastiques. Plusieurs fois, ils ont mis 60 points à 2 en cumulé, mais c'était trop faible derrière. Encore une fois, Chris Paul a abandonné son équipe parce que blessé. Encore une fois, DeAndre Ayton est passé de pivot dominant à Casper, et finalement, ça passe à DeAndre Ayton. Tu ne peux pas partir à la guerre avec lui. Et au final, KD et Booker, ils se retrouvent avec Cameron Payne, Jock Landale et Landry Shamet pour jouer face à Denver. C'est trop faible. Les bilans, Phoenix ne va pas activer la dernière option, la dernière année de contrat à Chris Paul. Donc peut-être que Chris Paul va sauter, et que Monty Williams, le coach qui a fait du très bon travail, qui avait fait une finale NBA, a sauté aussi, remplacé par Frank Vogel, qui a été champion NBA dans la bulle avec les Lakers.
Et s'ils ne sont pas contents, il va leur dire Vogel.
Vogel, exactement.
Dis-moi, par contre, est-ce qu'on peut imaginer un avenir positif à cette franchise des Suns, qui va quand même garder deux joueurs fantastiques, oui. Kevin Durant un peu vieux mais toujours aussi fort, et Booker qui est quand même le joueur quand même qui a la progression la plus impressionnante de ces dernières saisons.
Il faut faire du changement. DeAndre Ayton, il faut le trader, il faut récupérer quelque chose.
Je crois qu'ils ont compris. Hein. Oh, déjà, Chris Paul, pour moi, c'est un signe fort. Hein.
Chris Paul
va pas rester, c'est sûr.
Non,
ils vont pas signer ça. Alors, est-ce que c'est pour le re-signer, pour le trader, ou pour le re-signer, pour essayer, parce que c'est plus de 30 millions la dernière année de
en fait, s'il le coupe jusqu'au 15, je crois, c'est 15 millions.
Oui.
Et après, c'est.
Ouais,
ça,
mais là,
ça
ils ont déjà dit que Chris Paul.
Ils ont dit qu'il n'y avait pas de certitude, surtout.
Après, il y a un Van Vliet qui est libre sur le marché.
Oui. Le cycliste Fred Van Vliet.
Mais ça peut continuer, en fait. Cette équipe peut avoir un avenir.
Mais il faut jouer des matchs ensemble. Il faut construire une saison ensemble. Il faut renforcer le banc de touche qui est trop faible.
Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Construire une équipe au dernier moment, ça ne marche pas. Et donc, il leur faut laisser
même
un peu
de temps. Même si ce n'est pas catastrophique. Alors, je comprends que tu dises déception.
Oui, quand tu trades pour avoir Kevin Durant, ce n'est pas pour perdre en demi-finale de conférence.
Mais Kevin Durant, tu deviens un contender.
Pas tu perds contre le champion.
Oui, oui.
On peut se consoler comme ça. Mais...
Quel est ton plus bel enchantement de la saison?
Mon plus bel enchantement, j'étais obligé de faire un big up à Jimmy Butler. Pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur des playoffs derrière Nikola Jokic. Il a su élever son niveau de jeu à une hauteur dingue, notamment la série contre les Bucks où il fait un match à 56 points, 9 rebonds. Il est quasiment à 38 points de moyenne face à Milwaukee. Bon, il termine sur la jante hier. C'est lui qui fait deux mauvaises décisions sur la fin de match, un ballon perdu et un tir.
Même s'il a un très bon passage quand même, où il met 13
points. Il met 13 points et après il craque. Il finit quand même à 5 sur 18. Il est un peu cramoisi, et Jimmy Butler a quand même montré. S'il y avait besoin de confirmation, parce que ça avait déjà été le cas les années précédentes, qui faisait partie de cette classe de joueurs capable d'emmener une équipe presque à lui tout seul au bout, un vrai leader sûr et hors terrain. Et j'étais obligé de parler de Jimmy Butler, parce que si Miami est en finale NBA, à la surprise générale, c'est grâce à Jimmy Bucket, Pierrot.
Les occasions vont être rares d'être champion NBA maintenant. Hein. 33 ans. Ça peut faire partie de ces grands joueurs qui finissent sans bague.
Il est encore sous contrat avec Adebayo, donc la doublette est là. Struss et Gabe Vincent sont free agent, donc il va falloir envoyer de l'oseille sur eux si vous voulez les garder. Mais
faire une campagne avec Tyler Hero déjà, ça serait bien.
Tyler Hero va revenir.
Et Lowry, quid de Lowry?
C'est fin de contrat, il est free agent.
Lui on peut s'en, ou ouais. Ou comme ça,
on peut s'en séparer de lui peut-être.
38 millions le mec, hein. même s'il a fait 2-3 bons matchs.
Ça fait cher après.
Allez, un petit Chris
après Spoelstra, Butler et Adebayo, bon, il faudra pas quand même faire une croix sur Miami, même si en saison régulière ils sont toujours un petit
tu
peu.
Tu trouveras toujours des vétérans pour revenir aller jouer à Miami.
C'est la fin du Denis Haslem. Qui part en n'ayant pas été champion à 41 ans.
Donc Jimmy, elle est l'enchalon du coup.
Jimmy Bucket, l'enchantement, le plus bel enchantement de Stephen cette saison. Nous allons maintenant en parler histoire.
Jokic, nice speed, and Green backs it home.
Picking up some speed, the alley.
Nowitzki against
Perkulic,
backs in, falling away, puts it up, banks it. Oh, what a tough shot from Nowitzki. Jokic gets it back, puts it up and in, and a foul.
And this year, Giannis, bringing the points.
Nowitzki puts it up,
puts it in. Dirk Nowitzki makes it a 10-point game.
Ooh, Giannis crossed over on Embiid. There's your brotherly love for you, Joel.
Inside, Jokic. Count it.
Alors, Nikola Jokic est-il déjà le meilleur joueur européen de l'histoire de la NBA ? Tout à l'heure, en présentation, on a cité quatre noms. Nowitzki, Gasol, Tipeee et Antetokounmpo. Je ne sais pas s'il ne va pas réduire à juste Nowitzki et Antetokounmpo, non ? Je pense que c'est déjà réglé pour Gasol et Tipeee, non ?
Moi je mets Yanis derrière déjà, direct. Hein. Mais, et Gasol...
Il me semble que quand on a fait le débat, tu avais quand même bien saucé Dirk Nowitzki.
Pour moi Tipeee est dedans aussi, parce que qu'est-ce qu'on fait ? On prend que la NBA ou on prend la FIBA aussi ?
Non, on prend tout le basket. On parle de basket européen.
On a bien dit de l'histoire de la NBA.
De la NBA, oui, mais...
Vous êtes plus embêtés là.
Ouais.
Et puis peut-être que Luka Doncic y sera un jour dans cette discussion, mais là c'est trop tôt.
Pas pour le moment.
On est d'accord. Les performances individuelles sont là, mais il n'y a pas encore la performance collective qui va avec.
Non.
Donc on l'écarte pour l'instant.
On l'écarte pour le moment.
En attendant mieux. En attendant des lendemains meilleurs. Alors, qui démarre sur cette discussion ? Est-ce que Jokic est déjà le meilleur européen de l'histoire de la NBA ? Stephen, il veut pas y aller, donc vas-y, Fred.
Merci beaucoup.
Fred, tu l'adores, toi, Jokic. Moi, vas-y, sauce-le.
En fait, c'est un big man, donc forcément, moi, je l'adore. J'ai envie de dire que oui.
Ah, t'as envie de dire
moi,
oui.
Moi, je suis désolé, j'ai envie de dire que oui.
Quels sont tes arguments ?
Si on prend uniquement le basket NBA, on est d'accord. Hein, parce que si on englobe tout le basket en général, c'est-à-dire la FIBA, etc.
Il y a d'autres clients.
Parce qu'il a du mal à s'exprimer sur le basket FIBA. Bah, tout simplement parce qu'il fait des choses que personne n'avait jamais vues, parce qu'il vient d'enchaîner un double MVP, il aurait pu être trois fois MVP, qui aurait posé problème à personne.
Mais Yanis aussi est double MVP, non ?
Oui, mais sur le troisième, il s'est mangé par Jokic, par exemple. Donc il n'avait pas de possibilité d'être trois fois. Il est MVP et final, comme Yanis, oui, aussi, bien sûr. Il n'est pas défenseur de l'année, c'est vrai, mais...
Le jeu est plus complet, quand même. Hein.
Le jeu est beaucoup plus complet. J'ai l'impression que vraiment c'est un playmaker, il a apporté son vrai style, il a un style complètement différent des autres. On le disait tout à l'heure, on a un joueur qui n'est pas ultra physique, il n'est pas ultra dominant au niveau athlétique, mais qui grâce à son QI basket s'impose. Bah, j'ai envie de dire que ses stats, le fait qu'il ait amené Denver en finale et qu'il l'ait gagné, qu'il soit dominant à ce point, qu'il ait fait des choses que personne n'avait jamais vu en playoff, hein. 600 points, 269 rebonds et 190 passes, c'est-à-dire qu'il est premier dans chaque statistique pendant ses playoffs. Ça n'est jamais arrivé. C'est, depuis 2002, le premier big man à être MVP des finales. D'accord ?
Depuis 2002 ?
Depuis 2002, c'était Shaq. Donc pour moi, ça classe un joueur...
Après, Yanis n'est pas pivot, mais c'est quand même un intérieur fort, quoi. Enfin, c'est un intérieur dominant.
Bien sûr, mais moi, je te parle de vrai pivot. Là, c'est un vrai pivot. Tu sais, normalement, un pivot, tu sais comment il joue au basket, un pivot ? Il attend qu'il soit nourri. Non, mais il attend qu'il soit nourri, et c'est les autres qui prennent du jeu pour lui. Lui, il a inventé un nouveau pivot. C'est un pivot qui est meneur en même temps.
Est-ce qu'on en verra d'autres des pivots comme ça ? C'est même pas sûr.
C'est pas sûr.
Wemby peut pas se muer aussi un peu en passeur.
Ouais, mais ça ne sera pas un vrai 5, Wemby.
Wemby, il n'y aura pas le jeu post-up que peut avoir Nikola Jokic. Il n'y aura pas enfoncer les mecs.
Pour moi, le fait qu'il a inventé
un style... Donc il est plus fort que Yanis, est-ce qu'il est plus fort que Nowitzki et Gasol ?
S'il a une deuxième bague, il va tuer le débat.
Pour moi, il est plus fort que Gasol. Nowitzki, c'est vrai que lui aussi, il a été capable d'emmener une équipe qui partait de loin. Il a fait des choses assez incroyables, la longévité, etc.
Le point commun entre Jokic et Dirk, c'est ce sont deux garçons qui ont peut-être un peu révolutionné la NBA. Dirk l'a révolutionné à l'époque en étant un poste 4 de grande taille qui tire à 3 points. Jokic a révolutionné le poste de pivot en tant que deuxième meneur de jeu. Après, maintenant, Jokic, il a un titre de MVP en plus que Dirk. Il est MVP des finales comme Dirk. Il est une fois champion. Je le mettrai devant Dirk, je crois. Nikola Jokic, si on se concentre que sur la NBA, après on peut parler d'un garçon comme Pau Gasol, mais Pau Gasol a plus de bagues, mais Pau Gasol n'a jamais été vraiment le leader d'une équipe.
Il était à Memphis, mais
il gagne pas avec Memphis. C'est quand il est aux Lakers, il est le lieutenant de Kobe. Donc Yanis est un joueur hors norme, mais physiquement. Et je pense que Jokic a apporté plus de choses à la NBA que Yanis Antetokounmpo. C'est plus impressionnant de voir un physique lambda. Il ne faut pas oublier qu'il fait 2,16. Hein, comme niveau. J'ai l'impression que c'est un mec qui fait 1,80 avec 4-3 cm de détente. Mais par rapport au standard NBA, c'est plus fort que ce que fait Yanis. Yanis est une brute humaine. Yanis est une brute humaine. Alors, c'est très fort ce qu'il fait, un mutant physique, athlétique. Mais il y a toujours, pour moi, cette carence du tir extérieur qui fait
que. Globalement, la technique de tir est dégueulasse, quand même, non ?
Yanis, oui, mais même s'il a progressé, pour moi, c'est une carence qui est, s'il faut comparer les deux, qui fait qu'il est derrière.
Après, Jokic, c'est pas
ouais, donc on est plutôt d'accord. C'est plutôt Jokic qui est devant.
Hein. Ouais. Arnaud, tu dis quoi ?
Après, ça joue à très, très peu. Et on est en train de parler de caviar. Mais pour moi, je mettrais une petite.
La façon dont Jokic, pour un Serbe, à Denver, la façon dont il a marqué les esprits des médias américains, des observateurs américains, moi, je trouve que, oui, ça le met déjà presque comme le meilleur européen de l'histoire. Parce qu'il est encore au début de sa carrière, au milieu de sa carrière. Il n'est pas vers la fin, il n'a pas encore basculé de l'autre côté de la colline.
Il a mis 8 ans à être champion. Hein.
Il a mis du temps à être champion. Mais ça, c'est
une équipe qui a travaillé, on l'a dit. C'est une équipe qui a travaillé.
Et de me dire... Faire ça à Denver, qui n'est pas un énorme marché, deux fois MVP, c'était quand même pas loin du tripit, du triple titre MVP, de MVP. Je trouve ça vraiment très fort. Parce que pour les impressionner, les Américains, même si on est dans une NBA un peu plus mondiale, il faut quand même y aller. Et chez eux, il fait l'unanimité.
Pas l'unanimité. Gilbert Arenas trouve qu'il est boring et que les gens ne veulent pas payer pour voir Nikola Jokic.
Il prend un fou furieux qui amenait des pistolets dans le vestiaire.
Après, est-ce qu'on est un peu d'accord? Est-ce qu'il va avoir une chaussure signature? Jamais.
C'est la personnalité aussi. Là, il a dit, alors, on l'a interrogé, Nicolas, vous allez faire la parade à Denver? Ouais, non, mais moi, je veux rentrer chez moi.
Mais lui, il veut aller dans sa ferme avec ses chevaux.
Et ça ressemble un peu à dire qu'ils sont people, on veut notre petite vie tranquille, on fait pas de vagues, voilà.
On massacre tout le monde sur les terrains, il y a plein de rentrer.
Et après, si on développe un peu plus loin sur le basket européen, Yanis et Nikola Jokic sont en retard. Ils sont en retard sur Pau Gasol qui a tout gagné avec l'Espagne, qui a été MVP des Euros. MVP en retard sur Tipeee, en retard sur Dirk qui a quand même deux médailles avec l'Allemagne, qui était une petite équipe et à chaque fois MVP des compétitions au championnat du monde et à l'Euro.
Alors, Jokic est vice-champion olympique. 2016. Mais
vice-champion olympique. Mais l'Espagne a
joué 20 minutes, un peu moins. Non, mais on est d'accord.
La vraie déception, c'est à l'Eurobasket l'année dernière, la Serbie qui est éliminée en 8e contre l'Italie parce que Svetislav Pesic est une pipe en bois et qu'il a benché.
C'est encore lui, hein.
Et qu'il a benché Nikola Jokic, le 3e et 4e.
C'est un vieux monsieur. Ça a été un très grand coach.
Ça a été un très grand coach, mais là c'est un peu dépassé par les événements et on verra la
finale. Il a les qualités quand même pour s'exprimer dans le basket européen.
Regarde ses stats.
Les chiffres à l'Eurobasket il fait 41 débats.
Il part de moins loin que Yanis. C'est la Grèce quand même.
Oui, parce que Yanis.
Il a besoin d'espace. Tout le monde se met devant lui. Il n'y a pas de défense illégale. Donc tu te mets devant lui, tu fais un mur et voilà, c'est fini.
On verra la Coupe du Monde parce que Nikola Jokic va jouer sûrement avec la Serbie à la Coupe du Monde. Après, il loupe les jeux parce qu'ils ne sont pas qualifiés. L'Euro 2017.
Alors tu as la Coupe du Monde 2019, ils se font taper par l'Argentine. Il nous a tapé derrière. Donc bon.
Et il ne fait pas les jeux. Donc il manque quelques compétitions à Nikola Jokic. On verra la Coupe du Monde.
Pour les avoir vus, les Serbes, il y a effectivement problème de coaching. Notamment en 2019, tu sentais que les mecs, ça s'aimait pas vraiment. Il y avait pas une alchimie. Pourtant, t'as des bons joueurs.
Ils ne sont jamais aimés. En 2000 déjà.
Ils sont assez particuliers quand même, je pense.
Et Jokic en 2019 est pas le choix numéro un. C'est Bogdanovic qui est leader de cette équipe serbe.
Le grand, le Boban.
Bogdanovic. Atlanta. Marjanovic
qui était là aussi, qui lui piquait des minutes sur le poste.
Bon, donc vous répondez oui, pratiquement. C'est un oui, pas franc et massif, mais presque, quoi.
Ouais, c'est presque ça.
On est d'accord.
Un petit titre FIBA, c'est sûr.
Nous allons terminer par le quiz spécial Denver Nuggets.
Et alors là, je suis très content de ma trouvaille.
Tournerai en rond, et là, on va pas tourner en rond. Est-ce que vous êtes prêts?
Coco Kukoc,
absolument. Alors là, vous mobilisez vos neurones.
Non, faites pas les paysans, t'es un mec de début de Chaumont, toi. Je pense que deux filles contre les vampires.
Et voilà, exactement. T'es pas un esthète du visage, qu'est-ce que c'est ton problème?
Un esthète du visage.
Je vous la refais. Mon premier est l'esthéticienne des bronzés.
C'est Christiane, l'esthéticienne, c'est Christiane Wood.
Il y aura une charade dans ce quiz. Ils sont pas contents. Vous êtes prêts?
Oui, on est prêts. Alors, c'est quoi? C'est Denver?
Denver Nuggets.
Mais basket?
C'est la troisième fois de la saison. Donc,
c'est la ville de Denver.
Franchement, il n'y a rien de très compliqué là. C'est du basket.
Ah, c'est du basket.
C'est du basket. J'ai même cherché des films et tout à Denver dont le truc.
Le dernier dinosaure.
Ça, c'est naze. J'ai rien trouvé.
Rien. Il n'y a pas un bon film tourné à Denver?
Si, y a mais pas connu.
Ah, ok.
Genre les 48 dernières heures à Denver, un truc comme ça. Personne l'a vu, personne connaît les acteurs. Ouais. Allez, on passe à la suite. Donc, Jokic, on l'a dit, meilleur passeur, meilleur marqueur et meilleur rebondeur de la finale, ce qui est unique. Mais rappelez-moi, vous qui avez de la culture en basket, qui détient le record de la moyenne de points dans une finale
Jordan.
NBA.
Bah Michael Jordan, bien sûr, en
laquelle
93,
bravo 13, Fred.
36 points, non ?
C'est plus.
38 ?
C'est plus.
41 ?
41 points de moyenne.
Cochon
sauvage. Incroyable, hein ?
En plus, à l'époque où tu ne mettais pas autant de points.
Oui.
Hein.
Oui. Ça mérite de le rappeler quand même de temps en temps. 41 de moyenne.
Franchement, dans la NBA d'aujourd'hui, tu as l'impression que c'était 50 points. Oui. Hein.
Mais tu sais que quand on va commencer à oublier Jordan, il va sortir un documentaire pour qu'on puisse se rafraîchir la mémoire.
Je vais mettre une option de 0,5 points à Fred que j'activerai ou pas. Selon ma volonté de GM. Ouais. Ah, okay. La sortie directe. Donc ça fait
l'avantage
un point pour
terrain.
Steph. Alors, quel joueur né à Denver est champion NBA avec une autre franchise en l'occurrence ? Ah tiens, je ne vous donne pas la franchise, je vous donne l'année. Quel joueur né à Denver est champion NBA en 2004 ?
Tayshaun Prince ?
Sean Sebilot. Oui, je rigole parce que t'es parti sur Tayshaun Prince alors qu'il fallait juste dire Sean Sebilot, qui a joué deux fois à Denver, oui, mais qui n'a pas apporté peut-être ce qu'ils attendaient. Quel est le meilleur marqueur de l'histoire des Denver Nuggets ?
English.
Ah, vous me faites plaisir. Quand même, vous en êtes tout vu. C'est la troisième fois que je pose la question. Et je crois que c'est Steve qui est parti.
Non, simultané.
Donc,
merci, Steve.
On donne pas de points.
Mais 0,5 Arnaud que t'activera au cas où.
C'est la Dorian non, option,
vous
tu sais.
Laisse-moi faire. Comme vous avez tous les deux répondu et que Fred n'a pas répondu, je retire son option de 0,5.
Ah, c'est pas beau.
Non, ça me paraît juste. Ça me paraît juste une charade.
Non, charade. Prénom, nom.
Il
n'y
a plus beaucoup de questions, hein. Je vous dis tout de suite.
Prénom, nom.
Prénom et nom, absolument, sinon
dans
ça compte pas.
Dans les finales NBA, c'est un quiz rapide.
Si vous ne me donnez pas le prénom et le nom, ça ne compte pas. Mon premier, alors, je vous demande de la concentration. Hein. Mon premier est le philosophe de la pensée critique.
Pff, frère, j'ai arrêté l'école en sixième.
Mon deuxième...
Quintavius Kadelpop.
Excellent. Il est là, le mec qui est allé jusqu'en terminale.
Qui a fait les études de journalisme, il est là. Pourquoi, c'est qui, c'est
Kant,
quoi, c'est
Kant. Kant. Emmanuel Kant, voilà.
J'aurais pu dire N'Golo.
N'Golo, c'est vrai, j'aurais pu démarrer sur N'Golo, mais là, c'était plus dur pour Arnaud, peut-être. Bon, ça fait deux points pour Steve.
C'est quoi la suite, bah, fini là, quand même.
Mon deuxième est un point de vue, une appréciation.
Obvious.
Un avis. Mon troisième est le surnom de Dembélé du Barça. Ous, exactement.
Obvious, ok.
Mon quatrième est situé entre le pont inférieur et le fond d'un bateau.
La cale.
Mon cinquième, c'est bien en anglais.
Well.
Et mon sixième est un pape anglais.
Pop.
Ouais, okay.
Bravo à Arnaud Valadon, 2-1. Et là, nous allons tout simplement répondre à tour de rôle à la question « J'ai joué ou pas avec Nikola Jokic ?» Vous êtes prêts ? Vous avez compris la question ?
Oui.
Que à Denver ?
Non. Donc, j'ai joué ou pas avec Nikola Jokic.
Il est infernal, ce mec. Donc, c'est Fred qui est en retard. Oh, ça ne change rien. Ça ne change rien. On va démarrer avec Steve, tiens.
Ouais.
Danilo Gallinari.
La Gallinette Cendrée.
J'ai joué ou pas avec Nikola Jokic ?
Je pense qu'il va jouer à Denver.
À Denver, absolument. Ouais. Nate Robinson, Arnaud Valadon.
Oh. Non,
il n'a pas joué parce que c'était la saison d'avant l'arrivée de Jokic à Denver, 2014-2015. Timothée Luau Cabarro. Fred.
Oui.
Oui ? Pourquoi tu me dis oui sans réfléchir ?
Oui.
Réfléchis avant de répondre. La réponse
oui.
était non, alors qu'il y avait un piège à Megalex parce qu'il a joué juste après le départ de Jokic.
De peu alors.
Donc ensuite, nous arrivons à Steve Geoffrey Lauvergne.
Jololo ! Alors, Jokic arrive en 2016. Jololo. Non.
Oui.
Yemel Timaïkou.
Ça, il aurait pu le dire.
Je pense savoir ce que tu vas me dire le prochain.
Arnaud, Petr Cornelius.
Oui.
Bravo.
J'étais sûr que tu allais sortir Petr Cornelius.
Et Fred, Adam Mokoka.
Light.
Oui.
Non.
Megalex aussi.
C'était le plus facile, oui, Megalex, mais en 2018-2019. Donc, bien après le départ de Jokic. Bon, ça nous fait 3 points pour Steve, 3 points pour Arnaud et 0 pour Fred. Il me reste une question, et là.
C'est la balle de match ?
Non, c'est une question multipoint. C'est très facile.
Oh.
Vous allez me donner les champions NBA 2023. Le roster de Denver, il faut avoir joué au moins un match. Donc, j'enlève Colin Gillespie. Voilà, qui n'a pas joué avec Denver. Donc, qui démarre ? Bah, c'est Fred.
Bah, Jokic.
Bah oui, Jokic, évidemment. Ensuite, c'est à Steve.
Kentavius Caldwell-Pop.
Évidemment. Ensuite, c'est à Arnaud.
Arnaud, pourquoi Jamal t'écris Murray. Tu n'as pas là ta tête ?
Jamal Murray.
C'est bon. Fred ?
Porter Junior.
C'est bon. Steve ?
Aaron Gordon.
C'est bon. Arnaud ?
Bruce Brown.
Bien entendu. Juste le temps que je le raye. Pourquoi je ne trouve pas sur ma fiche ? Bon, bah, c'est pas grave.
Oui, oui. Il est bon, t'inquiète.
Donc à Fred.
Oh, le rookie Christian Brown.
Excellent.
Mon père, Christian Brown.
Ensuite, nous arrivons à Steve.
Jeff Green,
c'est bon.
Il y a plus dur là.
Je suis content d'avoir commencé parce que là, ça va être compliqué.
Ish Smith.
Excellent. Arnaud, Fred, vous en avez trouvé 9.
Bah, comme il a joué le dernier match, Dédé Jordan.
Et Dédé Jordan, ah, c'est bon.
Et c'est moi qui me retrouve.
Bon, tu peux en trouver d'autres, je pense. Quand même. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Il jouait 8 en playoff, il faut s'en souvenir. Hein.
Il en reste combien ?
Ah non, mais dans le roster de l'année. Hein. Pas uniquement finale.
Ah, mais tu m'as dit ceux qui ont joué au moins
un match dans l'année. C'est pour ça que j'ai viré le Colin Gillespie.
Ah, au moins un match dans l'année.
Oui.
Ah, Reggie Jackson.
Reggie Jackson, c'est bien sûr que c'est bon. Arnaud. Il en reste 5.
Non, j'ai rien. J'ai rien sur ma liste, tu vois. Ça.
Alors, on passe à Fred.
Bones Island. Il a joué un match, c'est sûr.
Après, il était transféré.
40 et quelques.
Et après, il est parti aux Clippers, non ?
Alors, vous me dites ça, mais moi, je ne l'ai pas sur ma...
Ah bah si, il a joué, c'est sûr.
Je vais regarder.
Alors, on vérifie. On met un point.
Ah, mais il a joué dans la saison, t'as dit ?
Ouais, dans la saison.
Mais il a joué, forcément, il a été transféré après.
Ok. Vu qu'il me manque Bruce Brown, peut-être que j'ai pris un site pas très, très...
Attends, je vais te dire tout de suite.
Très sérieux.
Je pense qu'il a joué au moins 40 matchs, Bones Island.
Ouais, c'est possible.
Alors, Bones Island a joué 42 matchs.
Okay. Bon, allez, on te
répond. Oh, mais pourquoi je n'ai pas trouvé lui ?
Steve.
C'est à moi, là.
Je ne vais pas t'aider. Hein,
c'est à moi ?
Ouais.
Ok. Je vais trouver.
Vas-y. On te laisse quelques secondes de réflexion.
Un Slovène.
Oui ?
Oui, bah oui,
c'est ça.
Chanchar, Kanchar.
C'est beau, c'est beau.
Vlatko
Chanchar.
Là, tu m'as tué.
C'est bon, ça. À toi, Fred.
Non, j'ai plus rien. Il m'a pris rien. Il m'a pris mon
Kanchar. Il restait Nagy, Thomas Bryant, Jack White et Peyton Watson.
Ah oui, okay.
Non.
Élémentaire.
Ouais. Bravo Stephen, tu as encore remporté ce quiz. À la semaine prochaine.
Ciao.
RMC Basket Time.